RFI 5h à Paris, il est 7h à Istanbul. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Nemo en Peace et à tout à l'heure et bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI. Nous sommes le dimanche 23 mars 2025 et voici les titres de l'actualité internationale. Ekrem İmamoğlu sous escorte et sous les vivas de la foule à Istanbul, des milliers de personnes dans les rues de la capitale économique turque. Pour soutenir le maire de la ville, arrêté pour corruption et terrorisme, accusation sans fondement, répond İmamoğlu. Une quatrième nuit consécutive de mobilisation, encore très suivie, nous dira Nandlauer. Manifestation aussi en Israël, l'opposition dans la rue appelle au respect de l'état de droit. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui veut coûte que coûte limoger le patron du Shin Bet et qui reprend ses guerres à Gaza comme au Liban. Au Niger, le pays est sous le choc, 3 jours de deuil décrétés après l'attaque d'une mosquée vendredi dans l'ouest du pays. Dans la région des trois frontières, au moins 44 civils ont été tués lors d'une attaque terroriste de l'État islamique au Sahel. Enfin en France, marche contre le racisme et la montée de l'extrême droite ce samedi, presque 100 000 personnes dans tout l'Hexagone. Et la Chine qui veut rebooster les mariages des unions en chute libre. De moins en moins de Chinois se disent oui dans le pays, ce qui affecte aussi le nombre de naissances. La Turquie dans la rue pour la quatrième nuit consécutive, des dizaines de milliers de personnes. À nouveau, à Istanbul, notamment devant l'hôtel de ville, en soutien à Ekrem İmamoğlu, le maire de la plus grande ville du pays, arrêté et déféré hier soir devant un juge pour corruption et terrorisme. Des accusations immorales et sans fondement, dénonce-t-il. Ekrem İmamoğlu, grand rival politique du président Recep Tayyip Erdogan. Les manifestants ont réclamé la démission du chef de l'État et la libération immédiate du maire d'Istanbul. Reportage à Nandlauer.
Et soudain, c'est comme s'il était là. La voix d'Ekrem İmamoğlu qui retentit dans les haut-parleurs. La foule qui lui répond en chœur. Des dizaines de milliers de personnes. Et parmi elles, Serkan, 27 ans, avec son sifflet jaune.
Ce gouvernement est comme un camion qui roule à toute vitesse sur une pente descendante avec un pneu crevé. Si on ne l'arrête pas, on sera tous écrasés. Ce sera encore pire qu'aujourd'hui. On a la force de l'arrêter. Ce ne serait pas la première fois dans le monde.
İmamoğlu viendra, Erdogan partira. Gouvernement démission. Les manifestants s'époumonent malgré les gaz lacrymogènes qui se propagent dans l'air. Soudé et Acelia, 19 ans, portent une écharpe noire sur leur masque chirurgical. Pour ces deux étudiantes, l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu marque un tournant.
Par des voies illégales, le pouvoir essaye de nous voler notre droit de vote, le droit de choisir nos gouvernantes. Exactement. Le président veut désormais choisir ses opposants, éliminer ceux qui peuvent le battre. Il n'a plus aucune limite. Les gens s'en rendent compte.
Dilek, une retraitée, intervient pour leur donner raison.
Arrêtez, emprisonnez İmamoğlu. C'est nous. Arrêtez tout. Je n'aurai plus jamais confiance dans les élections. À quoi bon aller voter?
Tous promettent de continuer à manifester chaque soir aussi longtemps que nécessaire. Anadolu, Istanbul et Rafi.
Ekrem İmamoğlu, interrogé jusqu'au milieu de la nuit pour ses deux auditions, lui et ses 90 co-accusés ont été escortés par 14 fourgons anti-émeute et un important cordon de policiers jusque dans un palais de justice en état de siège. Le parti des İmamoğlu, le CHP, qui organise aujourd'hui par ailleurs sa primaire pour la prochaine présidentielle qui doit avoir lieu dans le pays en 2028. Manifestations de masse aussi en Israël, à Tel Aviv, à Jérusalem ou encore à Haïfa pour protester contre les multiples atteintes à l'état de droit dans le pays. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, qui appelle à la grève générale alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou refuse de tenir compte de l'avis de la Cour suprême qui a suspendu sa décision de démettre Ronen Bar, le patron du Shin Bet, le renseignement intérieur israélien. Benjamin Netanyahou qui affirme qu'Israël reste un État démocratique malgré le limogeage de Ronen Bar. Les manifestants s'opposent aussi à la reprise des combats à Gaza, les frappes qui ont repris depuis mardi. Des frappes aussi sur le Liban. 8 personnes sont mortes hier selon les autorités libanaises. Des frappes en réponse à des tirs de roquettes tirés depuis le territoire libanais et interceptés par Israël. Pour Guillaume Ancel, ancien officier français, il est clair que Netanyahou a repris la guerre et sur plusieurs fronts.
Ce que nous fait Netanyahou, c'est ni plus ni moins qu'une reprise de la guerre. En fait, Donald Trump a annoncé triomphalement que c'était un président tellement puissant qu'il avait le pouvoir de stopper la guerre. C'est ce qu'il a fait le 20 janvier, sauf que pour l'Ukraine, c'est pas fait et qu'il ne l'avait fait que pour le Proche-Orient. Néanmoins, il l'avait fait pour le Proche-Orient. Il ne faut pas cacher le soulagement qu'on a eu tous que ces opérations épouvantables de dévastation cessent. Mais là, il a manifestement autorisé Benjamin Netanyahou à reprendre la guerre, et une guerre totale, puisqu'on voit que Netanyahou, ça y est, il est reparti pour aller bombarder au Liban, il bombarde tous les jours d'une manière absolument atroce la bande de Gaza, et en plus, il a de nouveau étouffé l'aide humanitaire, qui est juste un crime contre l'humanité, puisqu'on sait très bien que l'aide humanitaire, elle est destinée aux personnes les plus fragiles, et donc c'est à eux qu'il s'en prend dans cette guerre. Donc, pour moi, ce qu'il fait relève très clairement du crime contre l'humanité.
Des propos recueillis par Anne Bernas. Toute l'actualité du Proche-Orient à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. RFI, les 4h05 à Niamey, le Niger, sous le choc, alors que 44 personnes ont été tuées lors d'une attaque terroriste dans l'ouest du pays, attaque dans la région de Tillabéri. Les djihadistes ont encerclé la mosquée du village de Fambita vendredi, avant d'ouvrir le feu, visiblement un attentat de représailles, alors que l'armée nigériane a multiplié ces derniers jours des opérations contre l'État islamique au Sahel, dans cette région dite des trois frontières, où les attaques sont quasi quotidiennes. Précision, Guillaume Thibault.
Dans le communiqué diffusé à la télévision nationale, les autorités militaires parlent d'un massacre d'une rare cruauté mené par l'État islamique au Sahel, puis indiquent « ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis, les auteurs seront traqués ». Choqué, Amadou Haruna Maïga, le coordinateur de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale, a rendu hommage aux victimes ce samedi lors d'un point presse.
« Je présente mes condoléances les plus émues aux victimes tombées sous les balles des barbares. Mais ceux qui sont en train de perpétrer ces attaques-là, eux, pour eux, Dieu n'existe même pas. »
La zone de Fambita, village de la commune de Kokorou, est en partie sous le contrôle d'éléments de l'État islamique au Sahel qui mettent en place des barrages routiers pour prélever des taxes. Il y a 8 jours, dans le cadre de l'opération NIA, le Courage, l'armée a lancé 2 importantes missions dans la région contre ce groupe armé et annoncé via un communiqué avoir neutralisé 90 djihadistes, 9 soldats. Ont été tués durant ces combats. Amadou Haruna Maïga appelle toutes les forces vives du Niger à lutter contre les groupes armés.
La guerre là, ça concerne tout le monde. Chacun a ce qu'il doit faire pour soulager la souffrance des populations.
Suite à l'attaque de la mosquée de Fambita, les autorités militaires du Niger ont décrété 3 jours de deuil national.
Guillaume Thibault du service Afrique de RFI. En République démocratique du Congo, la FCM-23 annonce se retirer de Walikale Centre, localité du Nord Kivu, sur la route de Kisangani. Le groupe armé soutenu par le Rwanda l'occupait depuis ce mercredi et déclare vouloir favoriser un climat propice au dialogue. Un retrait qui ne semble pas encore effectif. La situation était toujours confuse ce samedi soir. Des tirs ont été rapportés à RFI et des combattants du M23 étaient encore signalés dans plusieurs quartiers de Walikale Centre. L'actualité en France à présent est cette large mobilisation contre le racisme, le fascisme et la montée de l'extrême droite. Presque 100 000 personnes ont manifesté dans le pays, dans une centaine de villes, répondant à l'appel des syndicats et de plusieurs associations de défense des droits humains. Mobilisation notamment à Paris, 20 000 manifestants d'après la police qui ont donné de la voix et qui ont exprimé leur colère face à un racisme de plus en plus décomplexé dans le pays. Baptiste Coulon s'est glissé parmi les marcheurs reportage.
Avant c'était un peu la honte d'être raciste, mais en ce moment il y a une banalisation totale et c'est vraiment pas normal.
Contre le racisme et toutes les discriminations, une manifestation pour se faire entendre et ne pas s'habituer aux discours de haine. Dans le cortège notamment, des collectifs de soutien aux exilés comme Priscilla, arrivée en France il y a 3 ans.
Je viens du Congo Brazzaville et se retrouver en tant qu'étranger, c'était nouveau pour moi déjà. J'entendais parler du racisme, c'est ici que je l'ai vécu.
Il y a les mots et parfois plus.
Des agressions d'extrême droite comme on en a eu à Lille, où l'extrême droite est intervenue extrêmement violemment.
Jean, qui milite dans un collectif d'exilés du nord de la France, pointe du doigt la loi immigration votée il y a 1 an et les responsables politiques.
On voit déjà les effets de la loi Darmanin. Que ce soit le gouvernement et l'extrême droite, ils sont en raccord parfait sur toutes ces lois-là.
20 000 personnes dans la rue ne changeront pas la donne, admet le militant, mais cela donne du courage, dit-il, pour continuer la bataille.
Reportage signé Baptiste Coulon avec les moyens techniques de Bertrand Éclair. Le pape François sort de l'hôpital ce dimanche et ce après 5 semaines d'hospitalisation. Le souverain pontife de 88 ans qui souffre depuis la mi-février d'une double pneumonie, il effectuera une convalescence d'au moins 2 mois, annonce le Vatican. Il devrait saluer les fidèles peu après-midi, hors local, au moment de sa sortie, sa première apparition publique depuis le 14 février. Enfin, en Chine, le nombre de mariages, a chuté de plus de 20% en 2024. Moins d'unions, moins de naissances aussi, alors que les autorités tentent de rendre à nouveau le mariage sexy et annoncent vouloir simplifier les démarches administratives administrative, mettre fin notamment aux dépenses déraisonnables qui dissuaderaient les jeunes amoureux de se dire oui, explication avec Schmitt.
Des dots faramineuses, des cérémonies de mariage glamour et donc coûteuses, ce sont des traditions néfastes, a tranché le ministère des Affaires civiles qui promet de lutter contre. Mais comment convaincre la famille de la mariée de renoncer à la dot qui se chiffre souvent en dizaines de milliers d'euros et qui au passage déplume le futur marié? Les autorités n'ont dévoilé aucune formule magique. L'autre piste pour augmenter le nombre de mariages, les couples pourront désormais se faire enregistrer là où ils le souhaitent. Si le ministère annonce ces nouvelles initiatives, c'est que les mesures prises jusqu'à maintenant n'ont donné aucun résultat tangible. Des subventions aux mariés, des aides pour jeunes parents ou encore la promesse d'ouvrir plus de jardins d'enfants. Rien ne semble pouvoir convaincre les jeunes Chinois, souvent en situation précaire, de convoler et surtout de faire des enfants. En 2024, la Chine a enregistré un déclin de sa population pour la troisième année de suite.
Et on termine par du football. Suite et fin de la cinquième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Deux matchs nuls pour finir entre le Togo et la Mauritanie. D'abord deux partout entre Épervier et Mourabitoun. 0-0 ensuite entre le Soudan et le Sénégal malgré une large domination. Les hommes de Pape Thiaw ont buté sur les crocodiles du Nil, surprenant leader du groupe B et virtuellement qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Aux États-Unis, RFI, 5h11 ici à Paris. Restez bien avec nous, l'info continue.
RFI, toute l'actualité.
Martin Guez.
Et dans le prochain quart d'heure, on refait le film sur RFI, 20 milieux sous les mers. Wabis, d'abord, à la conquête des grands fonds marins, avec Franck Alexandre pour ligne de défense. Alors que des incidents se multiplient concernant les câbles sous-marins dans la Baltique, l'armée française veut maîtriser les profondeurs des océans. Forrest Gump, ensuite, personnage fictif, star du film éponyme sorti il y a 30 ans, et héros d'Antonio Marshall, marathonien chilien de 41 ans, qui a décidé de courir dans les pas de son idole, un Forrest Gump chilien qui a rencontré Naïla Derouane. Un crossover, ensuite, un éléphant ça trompe énormément et Papy fait de la résistance. Chez les pachydermes, ce sont les plus vieux qui font la loi. C'est ce que nous dira Florent Guignard pour C'est dans ta nature. Mais pour l'heure, on part donc à la conquête des fonds marins. Et la marine française qui veut devenir une référence dans la maîtrise des grands fonds marins où reposent notamment des câbles stratégiques. Câble au centre des tensions en mer Baltique où se sont multipliés les incidents ces derniers mois. Pour être capable de réagir et pour maîtriser les abysses, les forces navales renforcent leur capacité pour agir jusqu'au plus profond des océans. Franck Alexandre nous emmène à la conquête des grands fonds marins.
D'une importance majeure, les grands fonds marins sont pourtant moins connus que la surface de la Lune. Et pour la Marine nationale, le réveil a sonné en 2007 quand un sous-marin russe a réussi l'exploit de déposer à l'aplomb du pôle Nord, par 4000 mètres de fond, un drapeau anti-tan aux couleurs de la Fédération de Russie. Un véritable signalement stratégique, se souvient le contre-amiral Cédric Chetaille, coordinateur central pour la maîtrise des fonds marins.
Un message qu'il voulait nous dire, c'est un espace commun, mais en fait c'est un espace qui appartient à ceux qui sont capables d'agir et d'intervenir à cet endroit-là. Donc moi, je suis capable de le faire. Vous, vous n'êtes pas encore capable de le faire. Aujourd'hui, on est en train de rattraper ce retard et on sera à très court terme capable de faire le même type de mission.
Pour accéder au grand fond, la Marine nationale peut déjà compter sur plusieurs robots autonomes pouvant descendre jusqu'à 2000 mètres. Et à court terme, l'objectif, c'est 6000 mètres.
6000 mètres, ça correspond à une ambition, à la vocation mondiale de la Marine française. On déploie nos forces partout dans le monde. On est capable d'atteindre 97% du plancher des océans quand on est capable d'aller à 6000 mètres de fond. Et quand on a la volonté, avec un robot, d'être capable de ramasser, de sectionner, de rassembler, de nouer, d'agir, il faut maintenir ce robot à quelques dizaines de centimètres de sa cible.
Nature, des sédiments, variations, du champ magnétique, cartographie, autant d'éléments qu'il faut maîtriser. Et la vitesse des manœuvres sous l'eau est également un élément clé, contre-amiral Chetaille.
Le milieu sous-marin ne permet pas une communication continue avec l'engin. Après la mission, quand on récupère le drone, il faut tout décharger rapidement pour pouvoir réorienter la mission suivante. Et c'est ce cycle de observation par le drone, exploitation de la mission, décision et orientation de la mission suivante qu'il faut mener le plus rapidement possible pour obtenir un cycle qui soit supérieur à celui de nos adversaires.
Câble de télécommunication sectionné accidentellement ou volontairement, la guerre hybride se joue aussi dans les grandes profondeurs et dans le collimateur des marines de l'OTAN. Il y a le navire espion russe Yantar, un bâtiment souvent présent le long des côtes européennes.
Le navire russe Yantar, c'est un navire très intéressant parce que c'est un des très rares navires au monde qui est spécialisé et qui est très moderne pour mettre en œuvre des capteurs et des engins en toute discrétion qui vont aller très profond. C'est un navire qu'on surveille, c'est un navire qu'on traque pour l'empêcher de nuire à nos intérêts et de restreindre ce qu'on appelle notre liberté de manœuvre. Ça veut dire qu'on ne veut pas que l'usage potentiel des fonds marins à partir d'un navire comme le Yantar ne nous contraigne.
La maîtrise des grandes profondeurs s'impose, en particulier pour la France, qui possède le deuxième domaine maritime mondial. C'est aussi un défi technologique qui, à ce jour, n'est à la portée que de quelques marines dans le monde.
Chronique Défense, signé Franck Alexandre.
Vous avez peut-être vu le film Forrest Gump, resté notamment célèbre pour la réplique « Cours, Forrest, cours ». Eh bien, Antonio Marshall a pris l'injonction au pied de la lettre. Il est devenu une véritable coqueluche sur les réseaux sociaux qui l'ont rapidement surnommé le Forrest Gump chilien, ce marathonien de 41 ans qui pousse même le parallèle à s'habiller exactement comme le personnage de Tom Hanks dans le film. Et comme dans le film aussi, sorti il y a 30 ans, Antonio Marshall se retrouve souvent entouré d'un petit groupe de curieux venus courir avec lui lors de ses sorties. Il veut profiter de cette nouvelle notoriété pour faire passer un message de respect et de tolérance. Notre correspondante à Santiago, Neila Derouane, l'a rencontré. Reportage.
Tout commence pendant la pandémie de Covid. En télétravail chez lui, Antonio Marshall se laisse pousser la barbe et les cheveux. Un jour, alors qu'il fait son footing, un passant lui fait remarquer sa ressemblance avec ce célèbre personnage de film qui court sans s'arrêter.
Quand ils ont annoncé le retour du marathon de Santiago, j'ai repensé à ce que m'a dit ce monsieur et j'ai eu l'idée de faire la course déguisée en Forrest.
En quelques clics, Antonio achète la casquette Booba Gump, le t-shirt jaune, le short rouge ainsi que les baskets blanche. Après quelques hésitations, il sort finalement inaugurer son costume avec sa grande touffe de cheveux et sa longue barbe.
Dès les premiers mètres, une publication Twitter disait que Tom Hanks était au Chili et ça s'est viralisé.
Antonio a même appris certaines répliques du film par cœur et il a adopté la façon de courir de Forrest Gump.
L'idée, c'est de représenter le personnage de la manière la plus authentique possible pour que les gens, même 30 ans après la sortie du film, sentent la présence de Forrest Gump, qu'il est toujours d'actualité.
Mais au-delà du déguisement, il s'identifie lui-même à Forrest Gump. Ce personnage souvent moqué à cause de son autisme, Antonio, lui, était un enfant timide.
Ça a été très dur au primaire, entre 8 et 12 ans. On me donnait de méchants surnoms, alors je jouais seul. Quand les gens ne connaissent pas la vie des autres, ils inventent.
Depuis qu'Antonio incarne Forrest, il a acquis de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il en profite alors pour faire passer des messages contre le harcèlement et sensibiliser à l'autisme.
Je crois que la normalité, c'est d'être différent. Donc à partir de là, il faut tolérer et respecter les différences, les valoriser. Chaque différence, chaque individualité a un potentiel.
Lors de sa dernière course de l'année à Santiago, plus de 80 personnes ont couru à ses côtés, certains avec des bonnets de Noël, d'autres des chapeaux de lutin.
On aime la cause qu'il défend, donc on a décidé de l'accompagner aujourd'hui.
Je vais là où se trouve Forrest.
Vous venez de l'appeler Forrest?
Oui, c'est sous ce nom qu'on le connaît. J'ai adoré le film. Et quand j'ai vu Antonio, j'ai dit « waouh ». Donc à chaque fois qu'il participe à une course, on y va.
Il est iconique, il s'habille comme lui, on a envie de le suivre.
On a des proches qui sont atteints d'autisme, avec différents types de handicap, c'est pour ça qu'on est là.
La course commence et une participante crie « Cours Forrest, cours ». Naila Derouane, Santiago, RFI.
Et un reportage à retrouver sur notre site internet, vous pourrez y voir la photo d'Antonio Marshall. Un Forrest Gump plus vrai que nature, vous verrez.
C'est dans ta nature.
La ménopause, phénomène biologique caractérisé par l'arrêt du cycle ovarien qui touche principalement les humains et qui n'est pas très répandu dans le règne animal. Mais Florent Guignard nous dit ce matin que la ménopause touche aussi quelques espèces de cétacés. C'est à la une de C'est dans ta nature. Is this my new
irritability. Oui, c'est une nouvelle vie qui commence pour les femmes autour de la cinquantaine, quand elles ne sont plus capables de donner la vie, mais qu'il leur reste encore beaucoup à vivre. C'est ce qu'on appelle la ménopause. Mama, it's menopause.
no more children can be bred.
Eh bien, les femmes ne sont pas complètement seules. Il y a 5000 espèces de mammifères sur la planète et 5 connaissent la ménopause. Alors pas les primates, pourtant nos cousins les plus proches, non. Mais des mammifères marins, des cétacés, des baleines à dents comme les orques et les bélugas. Les orques sont fertiles jusqu'à 40 ans et peuvent vivre 90 ans, à peu près comme les femmes. Mais arrêter de se reproduire, c'est une anomalie dans le monde animal où il s'agit d'abord de perpétuer son espèce, sauf s'il y a des avantages. Et d'abord une moindre concurrence, explication de Jean-Luc Jung, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle.
On va éliminer les compétitions pour les mâles et pour la reproduction. Les femelles qui ne sont plus dans une phase reproductive actives sont plus disponibles pour autre chose.
C'est la théorie de la grand-mère appliquée aux cétacés. Les grand-mères qui ont de l'expérience protègent les plus faibles des prédateurs et savent où trouver la nourriture.
Les femmes auraient plus de temps pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des petits-enfants. Au final, donc, on aurait peut-être, on peut imaginer moins d'enfants, mais on aurait des enfants qui arriveraient à l'âge adulte plus fréquemment.
La ménopause.
Et pour la grand-mère orque, c'est vrai qu'il y a du boulot dans un océan hostile.
Les cétacés ont une vie sociale extraordinairement forte et ça doit être particulièrement difficile d'élever des jeunes dans le milieu marin. Il n'y a pas d'endroit où se cacher, il n'y a pas d'arbres où se réfugier. Donc il faut des organisations sociales autour des enfants, des jeunes, qui leur permettent d'arriver à l'âge adulte. Hein.
Les cétacés forment des sociétés matriarcales et s'ils sont les seuls animaux non humains à connaître la ménopause, ce n'est peut-être pas un hasard, Jean-Luc Jung.
Les sociétés des cétacés sont quasiment tout le temps organisées autour des femelles. Alors est-ce que le fait que l'évolution soit arrivée à la ménopause dans ces groupes est lié à ça, c'est possible.
Et les mâles alors, ils assument leur rôle de grand-père ?
Oui, chez les éléphants, c'est vers l'âge de 15 ans que le jeune mâle quitte le troupeau maternel et prend son indépendance, mais pas tout à fait comme on a pu l'observer au Botswana. Les groupes de jeunes éléphants sont très souvent dirigés par un vieux mâle qui partage son expérience. Le problème, c'est que ces vieux éléphants, aux défenses d'ivoire particulièrement développées, sont la cible privilégiée des braconniers, ce qui menace ainsi les plus jeunes. Alors un peu de respect pour les mâles gris de plus de 50 ans.
Message entendu, soyez gentils avec les vieux éléphants. Merci Florent Guignard qui signe ce matin, c'est dans ta nature.
Vivre ailleurs.
Et on part désormais à la rencontre de Pomme Madendjian, sacrée globe-trotteuse, partie étudier au Yémen, au Vanuatu, au Luxembourg et au Liban. Vainqueur la semaine passée du trophée des anciens élèves des lycées français du monde lors des 13e trophées des Français de l'étranger. Elle est aujourd'hui basée en Malaisie où elle promeut la francophonie en Asie du Sud-Est. Elle est ce matin l'invitée de Corinne Manjou.
J'habite à Kuala Lumpur en Malaisie depuis bientôt 3 ans et j'ai gagné le trophée alumni AEFE des Français de l'étranger.
Les anciens élèves des lycées français du monde.
Exactement.
Pour quel projet vous avez eu ce trophée ?
Je l'ai eu pour le travail que je fais sur la francophonie, notamment en Asie, depuis que j'y suis, donc ça va faire 6 ans, pour mon travail pour La Gazette, qui est le seul journal en français en Malaisie, et surtout pour le Festival international des auteurs francophones en Malaisie, que j'ai lancé l'année dernière, en mars, mon premier salon littéraire en français de Malaisie, et dont la deuxième édition a lieu cette année.
Exactement. Pourquoi vous êtes lancé dans ce projet ?
Je suis moi-même auteur publié en 2018 avec un premier roman et j'ai toujours aimé tout ce qui était culturel. Donc moi, je viens d'un background plutôt média et communication. Mais c'est vrai que depuis que je suis conjointe d'expatriés, je suis dans l'obligation quelque part de me reconstruire et de me réinventer à chaque nouvelle expatriation. Et donc, j'ai trouvé ce créneau qui réunit pour moi tout ce que j'aime. Donc la culture, la francophonie. Et donc, c'est un fil rouge qui a conduit, on va dire, tout mon parcours depuis presque 15 ans maintenant. Donc j'ai d'abord lancé ce premier roman. J'ai aussi eu ma propre agence de voyage culturel en Afrique du Sud. Et quand je suis arrivée au Vietnam, j'ai lancé le premier salon du livre en français. Et donc, quand je suis arrivée en Malaisie, voilà, je me suis lancée là-dedans.
Qu'est-ce que ce trophée va vous apporter ? Qu'est-ce que vous attendez de cette distinction ?
Symboliquement, c'est quelque chose de très important parce que ça reconnaît tout le travail qui a été fait, ça reconnaît les projets qui sont en place et ça, pour moi, c'est très important. Et symboliquement, c'est important parce que les femmes d'expat, vous savez, on dit souvent, vous passez votre temps en tongs dans la piscine à boire du rosé. C'est quand même un cliché qui est insupportable. Je le combats depuis 15 ans et voilà, c'est la meilleure manière et la meilleure récompense pour moi en obtenant ces trophées de dire voilà, non, nous créons de la valeur, on est des gens qu'il faut prendre au sérieux. Voilà, c'est ça que ça dit.
Comment vous avez connu les trophées des Français de l'étranger? Et pourquoi vous avez candidaté ?
les hasards de la vie. Je suis le petit journal depuis que je suis expatriée en tant qu'adulte, donc ça fait presque 15 ans. Hein. C'est au Mexique que j'ai découvert le petit journal. Ça fait des années que je voyais passer ces trophées, ça m'a jamais traversé l'esprit de faire quoi que ce soit. Et l'année dernière, en juillet, j'ai animé un colloque des professeurs de français de Malaisie, où j'ai rencontré une professeure qui venait de Singapour et qui m'a dit « Oh, t'as vu, il y a les trophées qui arrivent au mois d'août, il faut absolument que tu postules avec ce que tu fais et tout. » Je lui dis « Oh, écoute, c'est pas grave. » Et on en est resté là. En août, elle me renvoie un message en disant « Dis donc, est-ce que t'as postulé ?» Je dis « Ah non, écoute, j'ai pas le temps. » Elle me dit « Ah, oh, tu postules. » Et j'ai donc postulé, poussé par cette formidable personne qui se reconnaîtra. Et j'ai envoyé mon dossier et là, tout a démarré comme ça. Donc merci à elle, merci à cette solidarité féminine qui fait que voilà.
Vous avez été expatriée dans plusieurs pays et plusieurs régions du monde.
Oui, en fait, j'ai plus de 30 ans d'expatriation derrière moi, puisque j'étais expatriée enfant, de mes 0 à mes 18 ans, et que je suis repartie en expatriation en tant qu'adulte. J'avais 32 ans quand je suis repartie, et là, ça fait presque 15 ans qu'on y est, donc voilà, ça fait très longtemps. Je crois que ça doit faire une petite quinzaine de pays maintenant.
Quand vous êtes à l'étranger, la culture ne vous a pas manqué?
Oh, si, bien sûr, mais c'est toujours délicat de dire ça, parce que ça revient à dire que finalement, il n'y a pas de culture dans les pays où on vit, et donc ça, je me refuse à dire. Je suis notamment guide au Musée national de Kuala Lumpur, en français, donc je refuse de dire qu'on n'a pas de culture là où on est, mais c'est vrai que la culture, au sens débordant de richesses qu'on peut avoir à New York, à Paris ou à Londres, dans des villes comme ça, c'est vrai que bien sûr, dans le reste du monde, c'est plus compliqué.
Est-ce que vous avez des projets?
Là déjà, c'est de finir le festival international la semaine prochaine. Donc, c'est déjà de finir bien les choses. La dernière, nous avions eu 800 visiteurs. Cette année, on tape sur 1000, 1200 personnes. Donc, c'est quand même un gros événement. Il faut pas se rater, comme on dit. Donc déjà, je reste très focus sur ça, très concentré sur ça. Et l'année prochaine, nous verrons. Troisième édition ou pas du festival. La Gazette qui continue. A priori, on reste en Malaisie. Et donc voilà, on va continuer sur cette ligne.
Pamba Dédian qui répondait à Corinne Manjou pour Vivre ailleurs. Nous, on va terminer en musique avec Koutou de Lemlem.
አዲስ አመት መጣ አበባ አሮጌውን ተካ አበባ ከበሮ ይነሳ ትከሻ ይለካ አዲስ ዘመን መጣ ዙሪያው ገባ ፈካ አበባ ቂምና ጥላቻ በፍቅር ይተካ
Lemlem de Koutou, choix des programmateurs de RFI, choix surtout de Mona VDB. À la réalisation ce matin, je suis sûr que ça a plu aussi à Grégory Lesca, à la rédaction en chef, et à Xavier Besson, qu'on retrouve dans un instant pour l'info africaine.
en sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Géraldine Faladé, journaliste pionnière ayant travaillé à l'Office de coopération radiophonique, l'ancêtre de RFI. Pour rendre hommage à cette princesse béninoise disparue récemment, En Sol Majeur rediffuse l'entretien qu'elle nous accordait en 2021 lorsque cette discrète publiait Turbulente.
En Sol Majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à partir de 15h10 TU.
RFI. Géopolitique. Chantal Leroux.
Depuis le massacre début mars d'un millier de civils alaouites à l'ouest de la Syrie, le spectre d'un nouvel embrasement du pays a ressurgi. La transition est-elle menacée ? Le président par intérim, l'islamiste Ahmed al-Shara, réussira-t-il à cimenter une Syrie morcelée en communautés et ruinée par 13 ans de guerre civile ?
Géopolitique, Chantal Leroux.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI.